ça me fait plaisir de venir vous parler aujourd'hui des impacts de l'ALENA sur les travailleuses et travailleurs québécois. Merci beaucoup de l'invitation. Je pense que c'était nécessaire peut-être à l'équilibre d'un exercice de réflexion sur le bilan de l'ALENA. Alors, ça me fait vraiment plaisir. Peut-être trois petits éléments avant de commencer. Je dois dire que les organisations de la société civile, dont les organisations syndicales, on a nous aussi fait notre bilan trinational ou quadrinational, si on veut, de l'ALENA au Mexique, il y a de cela quelques semaines. L'intérêt général de faire cet exercice-là, c'est qu'on constate un désintérêt de plus en plus important de la population par rapport aux accords de libre-échange qui pourtant se multiplient et, comme on le verra, ont des impacts qui sont tout de même importants. Je voulais dire aussi remercier mon camarade Julien Laflamme, économiste à la CSN, avec qui, en fait, on a travaillé vraiment ensemble pour faire cette analyse-là. Dire que nos conclusions nous amènent à dire que l'ALENA, tout comme d'autres volets de cette adoption dans le fond du néolibéralisme dans notre pays, a eu des impacts directs et indirects qui sont importants et qui sont négatifs, n'en déplaise à certaines personnes. Je vous annonce tout de suite que nous ne nous réjouissons pas dans le fond des 20 ans de l'ALENA. Et ça nous sert de base d'analyse pour apprécier aussi tout ce qui s'en vient. Donc, on va essayer de procéder. Oups! Bon. Normalement, il y avait plus de texte que ça. C'est un peu dommage. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais encore? Non, c'est pas celle-là. Bon, ben, je vais y aller de façon verbale. Ça résume un peu nos conclusions. Alors, les résultats pour nous, c'est évidemment le renforcement d'un ordre néolibéral au profit des entreprises qui soumet l'intervention de l'État aux logiques du marché. Ça semble général, mais on verra qu'il y a des dynamiques très concrètes qui accompagnent cela. L'ALENA s'est appliquée de façon asymétrique, en fait, au détriment des intérêts économiques et sociaux du Québec. Troisièmement, les travailleuses et les travailleurs québécois sont désavantagés par l'ALENA, mais aussi l'accord de libre-échange avec les États-Unis qui a eu passablement d'impact là, sur l'emploi, par exemple, au Québec. Dans le fond, il y a eu une détérioration des droits là, de la démocratie et des politiques publiques de façon générale. Encore là, l'ALENA est un volet, ce n'est pas qu'à cause de l'ALENA, mais ça fait partie d'un tout cohérent. Donc, premièrement, les effets sur les politiques canadiennes et québécoises, ce qu'on a regardé, c'est que, dans le fond, l'ALENA est venue avec un certain nombre de réformes, OK, qui ont changé quand même le paysage canadien et québécois sous différents angles. On peut parler de la réforme de la loi sur la concurrence et de la loi sur l'investissement au Canada, qui a favorisé les fusions, les acquisitions des entreprises. On peut mentionner la politique monétaire restrictive pour contrer l'inflation, qui a eu un impact sur la récession. L'abolition d'un ensemble de politiques qui aurait pu contrebalancer les impacts du libre-échange, notamment au niveau du développement régional. On parle, par exemple, de l'abolition de l'Office canadien du renouveau industriel. L'absence de mesures transitoires ou d'adaptation, la réduction du fardeau réglementaire, des réformes fiscales, dont l'élimination de la taxe sur le capital, et aussi l'accord sur le commerce intérieur, quand même, qui est venu dans la foulée là, de l'ALENA. Et évidemment, les réformes de l'assurance-emploi. Donc, ça, c'est plutôt évident comme impact. Alors, on va avoir quatre réformes entre 1990 et 1996 qui vont avoir toute une série d'impacts sur les travailleurs et les travailleuses, dont un des principales, c'est vraiment la diminution importante de la couverture, le retrait de l'État. Et avec ces réformes-là, on va générer des surplus qui vont ensuite être volés par le gouvernement fédéral. Et évidemment, plusieurs autres réformes là, vont suivre dans les années à venir. En fait, qu'est-ce qu'on retrouve derrière ça? Dans le fond, c'est une dynamique où on constate une certaine harmonisation des dépenses publiques en termes de pourcentage du PIB là, entre le Canada et les États-Unis. Donc, c'est quelque chose qu'on a trouvé quand même assez révélateur. Dans le fond, on met en place un certain nombre de réformes et de pratiques qui nous amènent à un niveau de dépenses publiques qui se rapproche là, de plus en plus en fait, des États-Unis. Évidemment, là, il y a les impacts des plans de relance pour la crise, mais on voit que la tendance là, est assez sans équivoque. Et donc, ça s'est traduit évidemment par des exercices là, de réduction du déficit, le déficit zéro, à la fois au Québec là, et au Canada. Et on a assisté en conséquence à des coupures dans les transferts fédéraux aux provinces, entre autres. Donc, des relations asymétriques, on en a parlé, je ne m'étendrai pas plus là-dessus, comme j'ai beaucoup de choses à dire, alors on l'a dit. Ensuite, la question, est-ce que la LENA, dans le fond, a permis de créer des emplois? Évidemment, quand on fait la promotion de ce type d'accord-là, on dit que ça va être bon pour l'économie en général, et puis pour tenter de convaincre vraiment les gens, on va dire ça va créer des emplois. Donc, est-ce que ça a vraiment créé des emplois? C'est une question, évidemment, qui est un petit peu complexe. On a déjà mentionné ici l'impact qu'avait eu, de toute façon, la question du taux de change, hein, à la fois dans la première décennie et aussi dans la deuxième décennie. Et ça explique, là, selon nous, dans la première décennie, 90 % de la création d'emplois, donc en raison du faible taux de change. Pour la même raison, au Québec, entre 2002 et 2012, on a assisté à 160 000 pertes d'emplois pour exactement cette même raison-là. Donc, on voit aussi un déséquilibre au niveau des régions du Canada, évidemment, avec diminution au Québec, au niveau manufacturier, et ensuite, évidemment, dans l'ouest du pays, notamment à cause de toute la question du développement des sables bitumineux. Évidemment, tout ça, évidemment, il y a eu beaucoup de délocalisation. Là, je pense qu'on n'a pas à s'étendre beaucoup là-dessus. Mais nous, on voit la dynamique de concentration des entreprises, de fusion, d'acquisition, etc. Comme on en a parlé tantôt, là, de la division un peu du travail, de la perte de valeur ajoutée, de l'absence de possibilité d'intégrer verticalement tout ça. Donc, chez nous, ça a eu quand même beaucoup d'impact. Il y a eu beaucoup de concessions en matière de conditions de travail. On prenait l'exemple, par exemple, de Maple Leaf qui, peu de temps après l'ALENA, on a accordé des diminutions salariales de 40 % quand même pour faire face à la concurrence américaine. Il y a eu aussi beaucoup, les syndicats sont quand même pas mal mobilisés aussi dans les entreprises pour tenter de conserver les emplois. Donc, il y a eu là des efforts de productivité, d'innovation, etc. Mais ça ne l'a pas toujours permis de garder les emplois au final. Et donc, ce qu'on a vu dans le fond beaucoup au Québec, c'est une baisse des emplois manufacturiers de façon importante. Au niveau des services, et là, c'est dans le secteur des services qu'on a vu la création d'emplois de façon majoritaire, mais pas nécessairement dans le tertiaire moteur, beaucoup plus dans le secteur des services peu spécialisés, secteur traditionnel, hébergement, restauration, etc. Donc, sans dire que c'est toujours des make jobs, c'est quand même une tendance qui s'est accrue aussi là, de façon générale et pas seulement dans le secteur des services. On va en parler un peu plus en détail. Et donc, ces nouveaux modèles d'affaires-là hein, qui se développent et qui s'importent, il n'y a pas seulement qu'un modèle d'affaires, il y a plusieurs modèles d'affaires différents. Mais on se retrouve dans des dynamiques où il y a une certaine centralisation de la richesse, de la prise de décision. Ça affecte le rapport de force syndicale, évidemment, parce que quand on n'a pas d'interlocuteur qui est en mesure de prendre les décisions, c'est beaucoup plus facile d'aller faire les gains. Et en fait, comme on est souvent dans des modèles d'affaires où on peut très bien fermer une usine, en ouvrir une autre, ou fermer un dépanneur couche-tard, par exemple, et en ouvrir un autre, on se retrouve, dans le fond, avec un rapport de force qui est assez faible parce que les profits ne se font pas nécessairement localement, mais plutôt de façon centralisée. Donc, des modèles où on mise beaucoup sur la flexibilité et où, bien évidemment, beaucoup d'entreprises qui nous viennent des États-Unis, mais d'autres aussi, sont dans des dynamiques où on essaie de contrer là, l'apparition, évidemment, des syndicats qui vont amener des coûts de main-d'œuvre plus élevés, évidemment. Donc, il y a le modèle Walmart, je ne m'étendrai pas là-dessus. Vous avez un excellent livre à l'extérieur de Stéphanie Maillet qui a vraiment analysé ce modèle-là. C'est très troublant quand on le lit. Évidemment, il n'y a pas personne comme Walmart qui applique ce modèle-là de façon aussi parfaite, mais c'est sûr que ça inspire. Et en fait, c'est le type de modèle qui nous amène vraiment dans une dynamique de précarisation des conditions de travail de façon très importante. Alors, on a vu exploser la question du travail atypique. Depuis 1976, on avait 16,7% des emplois qui étaient atypiques, c'est-à-dire non permanents, à contrat, à temps partiel, etc. Et maintenant, on est rendu à 38,1%. Évidemment, ça affecte beaucoup les femmes et beaucoup les jeunes, mais ce qu'on se rend compte, c'est que même les gens qui ça fait 20 ans qu'ils sont en emploi, ou même pour la même entreprise des fois, sont le tiers des travailleurs sont dans des conditions de travail atypiques. Donc, ça se normalise de plus en plus. On a aussi toute la question des agences de placement qui prend de plus en plus de place. Et donc, il y a toutes sortes d'enjeux là, qui sont provoqués là, par ça. On pourra y revenir si vous avez des questions plus précises là-dessus. Quelque chose qu'on a trouvé intéressant, c'est la question du travail migrant temporaire. Il y a un lien à faire avec l'ALENA. Quand on regarde le nombre de travailleurs temporaires du Mexique qui viennent au Québec, 85 % sont dans le cadre du programme de travailleurs agricoles saisonniers. C'est un chiffre qui est en diminution depuis le début de l'ALENA, mais qui demeure tout de même assez important. On voit sur le graphique, en fait, qu'après la signature de l'ALENA, ce chiffre-là va augmenter. Je pense qu'hier, on a pu constater, on a pu voir un peu les raisons qui ont fait en sorte que plus de travailleurs mexicains viennent ici avec les déstructurations du marché rural, du marché agricole au Mexique. Évidemment, ça a des impacts importants pour nous et ce n'est pas la faute aux Mexicains. D'ailleurs, on les exploite de façon sans gêne, là, souvent, pas seulement les Mexicains, d'ailleurs, les Guatémaltèques, etc. Mais ça vient avoir un impact dans certains secteurs où, dans le fond, une entreprise qui va faire venir des travailleurs agricoles saisonniers, qui va diminuer beaucoup ses coûts de main-d'œuvre, va être plus compétitive que d'autres. Et dès lors, on n'a qu'à offrir des conditions de travail plutôt basses pour dire ben, « je ne trouve pas personne, il y a pénurie, je m'inscris au programme ». Et ça a des impacts de plus en plus importants au Québec et au Canada, et c'est pas seulement dans le secteur agricole. Mais donc, je trouvais quand même intéressant de mentionner, faire ce lien-là. Bon, évidemment, la création de la richesse hein, au niveau macroéconomique, on regarde beaucoup la croissance du PIB, etc. C'est pas un secret pour personne maintenant, c'est juste une illustration, par exemple, si la ligne en haut, ce serait, dans le fond, l'évolution des salaires s'ils avaient évolué au rythme de la productivité. Et en bas, on a l'évolution des salaires comme ça s'est passé réellement. Évidemment, on voit aussi les gains du 1 % là, qui montent en flèche là, depuis les dernières décennies. Taux de syndicalisation au Québec qui reste quand même assez élevé. On voit que c'est vraiment dans le secteur manufacturier où il y a eu une baisse plus importante. Mais un taux qui se maintient et qui suscite certainement des attaques pour tenter de le réduire. Alors, au Canada, de plus en plus d'attaques antisyndicales, des attaques aux droits fondamentaux, hein, de négociation de liberté syndicale et de droits de grève. Et on vise de plus en plus l'action politique des syndicats, là, entre autres avec le projet de loi C-377. On constate aussi de plus en plus d'offensives patronales. On a Éric Duhaime qui se met souvent à ce service-là, qui écrit un livre, par exemple, pour qu'on se libère des syndicats, etc. Et de façon générale, au Québec, même si on n'est peut-être pas dans ce même climat-là face au gouvernement conservateur, évidemment, on constate qu'il y a des réformes quand même nécessaires au Code du travail à faire pour mieux protéger les travailleurs et travailleuses, des réformes qui ne se sont pas effectuées là, depuis très longtemps. Merci, je vais essayer de finir. Enfin, l'ancrage territorial des retombées économiques, c'est intéressant de constater que, bon, dans le secteur du commerce, évidemment, on a de plus en plus de grandes surfaces, on a de plus en plus de géants. On n'a pas pu aller en détail, évidemment, sur les stratégies d'approvisionnement, mais on sait, quand on regarde un peu le cas, à quel point ça a pu affecter des petits manufacturiers qui se sont vus, dans le fond, imposer sans cesse des réductions de prix par ces géants-là. Des impacts, évidemment, sur les petits commerces. Et sur la question de l'approvisionnement, bien, évidemment, l'ALENA ne touche pas les gouvernements sous-fédéraux en ce qui a trait à l'obligation de faire des appels d'offres internationaux, comme ça le fait pour le gouvernement fédéral. Par contre, après la signature de l'ALENA, il y a eu cet accord sur le commerce intérieur qui, lui, dans le fond, a ouvert par rapport à ça. Et donc, on s'en va de toute façon dans cette direction-là avec la SCG. Et bien, c'est la question du pouvoir, dans le fond, de stimuler le développement régional par les approvisionnements là, des institutions publiques là, qui est en jeu. C'est beaucoup plus large que ça, mais du moins, il y a un lien à faire là. Et finalement, l'atteinte aux droits humains. Évidemment, on a parlé déjà du chapitre 11. Et ce que ça donne comme protection et même comme droit aux investisseurs et aux entreprises, on doit dire que le Canada est assez peu combatif par rapport aux cas qui sont présentés. Évidemment, il y a eu des cas qui attaquaient les services des postes. Il y a eu des cas en Alberta aussi qui attaquaient le système public de santé qui n'ont pas été gagnés. Mais il y a eu des cas comme le cas d'Abitibi-Bowater qui a poursuivi le gouvernement canadien parce qu'ils ont fermé leur usine à Terre-Neuve et le gouvernement terre-neuvien a dit « Vous n'avez plus vos droits sur la question de l'eau et de l'énergie. » Et ils ont gagné au détriment, au mépris de la législation canadienne. Le gouvernement aurait pu se battre pour gagner probablement cette cause-là, mais ils ont abdiqué très rapidement. L'ANAC, comme on l'a dit, qui permet absolument pas de garantir les droits des travailleurs. De façon plus large, les droits collectifs et beaucoup les droits humains, économiques, sociaux et culturels qui pâtissent, dans le fond, de ces accords-là face à la protection dont bénéficient les investisseurs et les multinationales. Et donc, la logique, en fait, dans laquelle on s'inscrit avec ces projets-là, c'est d'éliminer le plus possible les entraves à la libre circulation du capital. Et nous, on constate que nous sommes des obstacles parce que nous essayons toujours de défendre les droits, mais aussi d'augmenter la part de la population et des travailleurs et travailleuses, dans le fond, sur le profit qui peut se faire au niveau économique. Alors, voilà, c'est tout. Merci.